Le récit de la femme adultère dans l'évangile de Jean, chapitre 8, est pour moi l'expression la plus radicale de la grâce de Dieu. Et en fait, il m'a même fait changer ma théologie, pour tout vous dire. Quand j'étais jeune pasteur, j'enseignais que Dieu pardonnait, bien sûr, mais qu'il fallait lui demander pardon. C'est-à-dire que Dieu pardonne à ceux qui demandent pardon. Or là, la femme adultère ne demande jamais pardon. Elle n'exprime aucun regret, elle ne demande pas pardon, elle ne demande même rien. Et Jésus la pardonne et la relève. Et même, j'ai lu dans certains livres de commentaires bibliques, qui disent « Jésus guérit, mais il faut que la personne demande la guérison, exprime une foi, exprime sa foi, quelque chose ». La femme adultère ne demande rien et elle n'exprime jamais la moindre foi. Et donc, non seulement elle ne demande pas pardon, elle ne demande pas d'être libérée et elle ne confesse même pas sa foi en Jésus-Christ. Et donc, quand on nous raconte qu'on est sauvé quand on croit en Jésus-Christ, qu'on est sauvé si on prend Jésus-Christ pour son Seigneur, que c'est la prière qui nous sauve, sans quoi Dieu ne nous pardonnera pas, c'est faux. Voilà. Dieu peut nous pardonner même si nous ne demandons pas pardon et même si notre foi est insuffisante ou inexprimée, le Christ nous accueille, il nous relève. Et donc je vous dis, c'est vraiment l'expression la plus radicale de la grâce, c'est la même que celle qu'on trouve dans l'Ancien Testament quand Moïse est au buisson ardent et que Dieu apparaît à Moïse en lui disant « J'ai vu la misère de mon peuple et je suis venu te dire de le libérer. Pourquoi Dieu va-t-il libérer le peuple ? Parce qu'il a vu la misère de son peuple. Il ne dit pas « Mon peuple est juste, il est valeureux, il m'a crié à moi. » Rien. J'ai vu la misère de mon peuple et je le libère. Point. Et après, il dit « Tu iras dans le désert et là j'espère bien qu'ils vont m'adorer, suivre la loi, ce qu'il faut. » Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui se fiche de tout. Il a un projet, un but, un espoir pour que ça fonctionne, mais en tout cas, la foi, l'adoration, le culte n'est pas une condition pour le salut. Juste, il compatit à la souffrance et non seulement il ne condamne pas, mais en plus il libère et il remet debout, il s'engage. Alors, l'interprétation traditionnelle de ce texte, en fait, c'est de dire qu'il ne faut pas être comme les méchants lapideurs. D'ailleurs, l'expression « ne pas jeter la pierre » est devenue une expression courante en français. Et quand il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, on le comprend assez bien, ce texte, en disant « Écoutez, ne condamnez pas parce que, a priori, vous n'êtes pas vous sans péché, donc ne jetez pas la pierre. Voilà, remettez-vous un peu en cause et balayez devant votre porte avant de vouloir faire le ménage chez les autres. » Le petit message moral est bien reçu, je l'entends très bien et il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, cette lecture est évidemment totalement insuffisante pour expliquer le texte. Parce qu'il y a plein de choses bizarres dans ce texte, pour tout vous dire, très curieuses. D'abord, ça m'a amusé, ce Jésus qui n'arrête pas, qui se baisse, qui se relève, qui se baisse, qui se relève, deux fois de suite. Donc il fait quatre mouvements. Ce qui fait qu'un de mes maîtres en théologie, quand j'étais jeune, disait... La femme adultère, c'est la théologie Roux-Combalusier. Vous savez, le fabricant d'ascenseurs là, qui monte et qui descend. Et donc, Jésus se baisse, se lève, se baisse. Alors, c'est quoi cette histoire? À quoi ça sert? Bon. Ensuite, et ça c'est un des grands mystères de la Bible, vous savez que Jésus n'a jamais rien écrit, son enseignement a toujours été oral, sauf un endroit là, où on nous dit Jésus écrivit avec son doigt, sur le sable. Alors, problème, c'est comme c'est sur le sable, ça s'est effacé, et on ne sait pas ce qu'il a écrit. Et donc, tout le monde, depuis 2000 ans, se demande qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire sur le sable à la femme adultère. Eh bien, je le sais, et je vais vous le dire tout à l'heure, mais il faut attendre un petit peu, parce qu'il faut un petit cheminement pour y arriver. Parce que pour comprendre ça, je vous propose, en fait, de prendre le texte dans l'autre sens, et d'essayer de le voir du côté de la femme. En fait, je suis la femme adultère. Et il faut que j'arrive à voir en quoi est-ce que ça correspond dans ma vie et qu'est-ce que peut me faire le Christ. Alors d'abord, comment est-ce que je peux être moi la femme adultère? Oui, Ça, c'est une... La théologie de la Bible est très féministe parce qu'en fait, elle considère que l'humanité, elle est comme une femme, fondamentalement, appelée à s'unir à Dieu. Voilà. C'est tout le thème du Cantique des Cantiques et aussi dans l'Évangile où Jésus se présente lui-même comme étant l'époux et il y a le texte sur les vierges sages et les vierges folles appelées à s'unir à l'époux. C'est là toute la théologie des noces. Ça arrive sans arrêt dans le Nouveau Testament jusqu'à Paul qui dit « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Voilà. Donc c'est... La grande idée, c'est qu'en fait, nous sommes invités, nous, à nous unir à Dieu ou au Christ. Et alors, du coup, il faut que je me demande, cette femme adultère, donc moi, en quoi suis-je une femme adultère? Alors pour ça, il faut que je revienne encore un peu en arrière et que je me dise, qu'est-ce qu'elle a fait de mal, cette femme? Alors vous me direz, elle est adultère, donc elle a dû tromper son mari. Faux. Déjà, c'est faux, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, c'est très bien catégorisé, une femme qui trompait son mari, on devait la tuer, je crois qu'on devait l'égorger, ou l'étrangler, enfin je ne sais pas, quelque chose, je passe le détail, en tout cas on ne la lapidait pas. Je dis quand même pour les féministes que si on attrapait une femme en train de tromper son mari avec son amant, on tuait les deux, hein, on ne tuait pas que la femme. Mais on devait l'égorger ou l'étrangler, je ne sais plus. En tout cas, on ne devait pas la lapider. La lapidation était pour un cas très particulier, qui est celui d'une fiancée qui n'a pas su attendre la fin de ses fiançailles. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que du temps de Jésus, les fiançailles devaient durer un an, et la jeune fille qui avait entre 13 et 16 ans, était très jeune, devait... Et donc, ils devaient apprendre à se découvrir l'un l'autre pendant un an avant d'avoir le droit de consommer leur union. Donc, une jeune fille qui n'a pas su attendre. Et alors, comment est-ce que je peux interpréter du coup l'histoire par rapport à moi? Eh bien, si moi je suis la fiancée, ça veut dire que je suis invité à être, par rapport à Dieu, dans la situation des fiançailles. C'est plus très à la mode, les fiançailles, aujourd'hui, mais pourtant, c'était une assez belle idée de se dire qu'avant de s'unir à quelqu'un, on doit travailler à découvrir cette personne, apprendre à se connaître, on doit cheminer ensemble et ne pas faire tout de suite comme si on était un vieux couple, si vous voulez. Et de même, je crois que l'idée que nous sommes fiancés au Christ est une belle image. C'est-à-dire que aucun de vous ne peut prétendre être totalement uni au Christ. Mais nous sommes tous comme des fiancés, et il y a le Christ qui est là, et on doit apprendre à le découvrir, à cheminer avec lui, à rentrer dans un peu plus d'intimité, à cohabiter progressivement, si vous voulez. C'est-à-dire que on est tous, en fait, dans la situation de devoir faire la cour à Jésus-Christ. Bon, sauf certains d'entre vous qui vivaient dans une foi parfaite et dans une mystique adorable, admirable, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Et donc, je dois sans arrêt essayer de... voyez que, enfin, rappelez-vous, si vous avez quelques souvenirs, comment on fait pour faire la cour à quelqu'un que l'on aime et on voudrait rentrer dans son intimité, mais bon, on n'habite pas ensemble, mais on aimerait... Alors, on se donne des rendez-vous, on essaye de cheminer un peu ensemble, on parle. Mais faites tout ça avec le Christ. Donnez-vous des rendez-vous dans la prière avec Dieu, des moments de rendez-vous. Et ces moments de rendez-vous au début avec Dieu, c'est exactement comme vos premiers rendez-vous amoureux. On est gêné, on ne sait pas quoi dire, ça dure pas longtemps. On dit, bon, ben c'est un plaisir, à bientôt, voilà. Et le soir, le lendemain, on reprit. Et progressivement, en travaillant cette intimité, en parlant, en priant, en recherchant ces moments de présence, progressivement, cette intimité gagne et on devient plus proche. Donc, vous disais-je, il y a un travail d'approche à faire avec le Christ qu'il faut faire et pour arriver à une union plus profonde. Et donc, l'erreur de cette femme, qui nous menace tous, hein, bien sûr, c'est qu'en fait, elle n'a pas voulu attendre. Et elle a dit, finalement, moi, je n'ai pas besoin de découvrir plus et je vais faire comme si j'étais déjà arrivé. Je n'ai plus de chemin à faire. Soit parce qu'elle considérait que sa foi était suffisante, donc, bon, on se connaît assez maintenant, c'est bon, on peut vivre ensemble et coucher ensemble, il n'y a pas de problème. OK, faites comme vous voulez, soit que, enfin, bref, qu'elle s'en sentait incapable, enfin, j'en sais rien, en tout cas, elle a cessé le chemin de découverte de l'autre, et elle a cru qu'elle pouvait faire comme si elle n'avait plus aucun chemin à faire pour découvrir le Christ. Et ça, c'est une erreur, je crois. C'est une erreur parce que, en fait, il y a toujours quelque chose à découvrir dans notre vie. Et la foi n'est pas un trésor grand ou petit sur lequel on pourrait s'appuyer en disant « j'ai ma foi, il suffit ». Mais la foi, c'est une découverte progressive. Et la foi, c'est toujours de se dire « je peux apprendre à connaître mieux l'autre ». C'est pourquoi, dans les béatitudes, les 8 béatitudes, la première, c'est pas « heureux ceux qui sont riches spirituellement », c'est « heureux ceux qui sont pauvres spirituellement », heureux les pauvres en esprit. Ceux qui savent qu'ils ont besoin d'apprendre, de découvrir, d'entrer dans plus de foi, de relation à Dieu, etc. C'est pas heureux les champions de la foi, c'est heureux ceux qui cheminent. Alors le risque, quand on cesse d'avancer, comme représente cette femme, cette fiancée qui n'a pas voulu attendre et qui se dit « j'arrête de cheminer », le risque quand on se croit parfait ou quand on ne veut plus avancer, c'est qu'on s'arrête, justement. Et s'arrêter, c'est toujours une catastrophe dans la Bible. La Bible, malheureusement, ça fait 5 ans maintenant, ça fait la 6e année que je ne peux plus le dire, la Bible nous invite à être toujours en marche. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être en mouvement, il faut avancer en route, le chrétien est un pèlerin et il chemine dans le désert et c'est pas évident, mais il marche et le chrétien est toujours en marche. D'ailleurs, les béatitudes, heureux, 8 fois heureux, ce mot heureux veut dire en marche en hébreu. Et donc la Bible, c'est de toujours cheminer. Et dès qu'on s'arrête, on est perdu. Parce que dès qu'on s'arrête, il y a plusieurs choses à faire, je dirais, soit parce qu'on considère qu'on n'a plus d'efforts à faire, soit à ce moment-là, nos imperfections nous sautent au visage, comme cette femme adultère, où elle a dit « je considère que c'est suffisant comme ça, j'arrête de progresser ». Et à ce moment-là, il y a les accusateurs qui disent « mais ma cocotte, t'as vu tout le péché qu'il y a en toi ? Boum, une pierre !» Et c'est ça, la culpabilité qui nous saute au visage, si vous voulez, qui nous condamne, qui nous accuse. Comment toi tu prétends être parfait? Tu prétends ne plus avoir de chemin à faire? Tu prétends que ta foi est suffisante? Ah ben dis donc. Et voilà. Et donc je me sens évidemment coupable, ce qui n'est pas une bonne idée. Parce que quand on prétend plus avancer, la culpabilité devient ingérable. Alors que quand on a un chemin, comme le dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3 que je vous ai lu tout à l'heure, oubliant ce qui est en arrière, je fonce! J'avance et devant, il y a quelque chose de lumineux, de beau, de grand qui m'attire et c'est ça qui me fait vivre. Et donc oui, il y a un risque de, évidemment, soit de, je dirais, de légèreté en se disant je me contente de ce que je suis et je suis très bien comme ça, idiot. Ou même peut-être aussi de découragement, hein, quand on a si on a un idéal trop élevé, on se dit j'y arriverai jamais, je peux pas, donc j'arrête. Mais quand on n'avance plus, on n'a plus qu'une chose à attendre, c'est le rocher de la mort. Là, vous rigolez un peu moins, mais c'est pourtant vrai. Si on n'a pas d'objectif dans la vie, si on n'a pas de but, si on n'a pas d'idéal, vous attendez quoi? De toute façon, vous ne resterez pas immobile pour la fin des temps, donc vous n'avez plus qu'une chose à attendre, c'est le rocher de la mort. Oui, parce qu'il faut que je vous explique comment on lapidait à ce moment-là. Vous imaginez qu'on jetait plein de pierres, là, comme font les intégristes musulmans aujourd'hui en Orient? C'est pas ça. C'est très bien expliqué dans le Talmud. Alors, que les enfants n'écoutent pas trop, ça risque d'être un peu violent, hein. En fait, pour lapider une femme adultère, voilà comment on faisait. Il prenait une énorme pierre, mais très grosse, hein. Il fallait se mettre à 3 ou 4 pour la soulever, éventuellement. Et là, le plus âgé de l'assistance, d'où quand il dit, le texte nous dit qu'ils s'en allèrent tous les uns après les autres à partir du plus vieux. Les gens disent c'est parce que les plus vieux, ils ont fait plus de péchés que les plus jeunes. Bon, je crois pas, mais parce que c'était le plus vieux qui devait ensuite prendre la pierre à bout de bras et on mettait la femme à terre et on lui jetait sur la tête, ça explosait la tête. Voilà, c'est très bien. Donc en fait, il y avait une pierre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous parle de se dire, si vous n'avez aucun idéal, vous attendez quoi? Le rocher de la mort, paf! Et donc, je crois que dans la vie, il n'y a pas trop le choix, en fait. Notre vie, c'est soit d'attendre le Christ, soit d'attendre la mort. Soit vous avez un idéal, une volonté d'aller vers la lumière, vers quelque chose, vers de l'esprit, vers du service, vers du don, vers du don de soi-même, pour aller vers autre chose, vers de la dépossession de soi qui mène à l'éternité, en quelque sorte. Soit vous restez comme vous êtes et vous attendez la mort. Mais en fait, il n'y a pas trop le choix. Donc vous voyez, c'est pas évident. En tout cas, cette femme, une fois de plus, Jésus ne l'a pas condamnée. Je ne vais pas la condamner moi-même. Et je ne vais pas dire, elle a eu tort, elle aurait dû garder un idéal et continue de chercher. Elle a fait ce qu'elle a pu, la pauvre. Effectivement, Jésus lui dit pas, il lui dit pas, mais enfin, reprends-toi, qu'est-ce que tu fais Non. Elle souffre. Elle est désespérée, elle a peur. Et elle attend le rocher de la mort, la culpabilité, le regard des autres, la loi, tout. Tout la réduit à rien. Et Jésus, simplement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a tout un procédé pour arriver à la remettre en marche. Mais c'est long. C'est pas simple, hein. Il suffit pas de dire aux gens, allons, reprends-toi. Tout un procédé qui est absolument génial. Alors, comment va faire Jésus? D'abord, il commence par se baisser à terre. Ça, c'est absolument incroyable. La fille est couchée à terre, je vous le rappelle. Et donc, Jésus commence par se baisser vers elle. Il se met à genoux, tout près d'elle. Et ça, c'est très touchant. Ce Dieu qui vient vers nous, et qui n'est pas comme ces pharisiens qui nous jugent d'en haut, enfin, regarde mon enfant, ce que tu as fait, ça n'est pas bien. Il vient vers nous, sans rien dire. Et ce Dieu qui s'approche en nous, en Jésus-Christ, sans condamner, sans rien dire, mais juste qui se fait tout proche. Ça, c'est absolument extraordinaire, ce Dieu qui nous aime personnellement. Après, on nous dit qu'il écrivit sur le sable. Donc voilà, j'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit sur le sable? Là, pour trouver, j'ai suivi une règle d'interprétation juive de la Bible qui s'appelle le Remez. Il y a plusieurs clés de lecture de la Bible, mais dans le judaïsme, il y en a une qui dit, chaque fois que vous avez un passage, demandez-vous si ça ne renvoie pas à un autre passage de la Bible. Parce que la Bible se renvoie toujours mutuellement. Et donc, qui d'autre dans la Bible a déjà écrit quelque chose avec son doigt, par terre? Ça, je le sais. Exode 31:18, quand Dieu donne la loi au mont Sinaï, il est écrit, Dieu écrivit la loi sur des tables de pierre, et les tables de pierre étaient écrites du doigt de Dieu sur la pierre. Étonnant. Tiens, d'ailleurs, c'est amusant parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ce texte est l'image même pour moi du Dieu de grâce au buisson ardent. Et nous voilà de nouveau, quelques mètres plus loin, au mont Sinaï, avec ce Dieu qui écrit avec son doigt la loi sur des tables de pierre. Donc, quelqu'un qui écrit avec son doigt, c'est qu'il écrit la loi. Mais là, il y a quelque chose de différent. Que Jésus écrive la loi avec son doigt, pourquoi pas? Parce que Jésus est le Fils de Dieu, admettons qu'il ait une puissance divine, il peut très bien faire comme Dieu. Donc, autrement dit, il donne une loi nouvelle. Très bien. C'est d'ailleurs à la transfiguration. Moïse dit aux disciples, la voix plutôt apparaît, Jésus discute avec Moïse, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, Jésus est le nouveau Moïse, celui qui donne la nouvelle loi. Simplement, il y a une grosse différence. C'est que la loi de Dieu, elle était écrite sur la pierre. C'était une loi universelle pour tout le monde. Et une loi du coup qui juge où je rentre dans les cases, où je ne rentre pas. Et la loi, Jésus donne une nouvelle loi, mais écrite pour la personne dans le sable. C'est-à-dire, c'est pas une loi immuable. C'est la loi d'un moment, d'un instant, et qui n'est pas une loi universelle. C'est une loi pour la jeune femme qui est là. Et donc voilà. Je pense que Jésus, alors, je vous ai promis que je vous dirais ce qu'il a écrit. En fait, je ne peux pas le savoir. Mais je sais en gros la teneur, hein, c'est-à-dire que Jésus, il est venu vers elle. Il lui a dit, écoute, voilà ce que tu peux faire, toi, pour le Seigneur, aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça. Et demain, le sable aura effacé, j'écrirai autre chose. D'ailleurs, il lui écrit deux choses à deux moments d'intervalle, probablement pas la même chose. C'est-à-dire que pour chacun de nous, Dieu a un projet particulier. Et pour chacun de nous, Dieu nous dit, par une vocation particulière, ce que nous pouvons faire pour le service de Dieu, pour le service de l'humanité, pour le monde. Et chacun de nous, nous avons une petite loi particulière. Et donc, ça n'est plus une loi collective et générale qui écrase l'individu, c'est une loi individuelle donnée à chacun, et chacun peut découvrir ce qu'il peut faire dans sa fidélité à Dieu, pour son service de Dieu, et il peut le savoir dans sa relation personnelle à ce Dieu qui s'approche de lui sans le condamner, et c'est dans cette relation d'intimité que chacun peut comprendre ce que Dieu lui demande. Et donc voilà, il lui dit ça. Alors, ça ne regarde qu'elle, mais en tout cas, pour chacun de nous, Dieu va écrire quelque chose avec son doigt dans le sable. Ensuite, Jésus se relève, parce que, en fait, ça n'a pas réglé tous les problèmes. Certes, il lui a dit, tu peux faire un truc, mais en fait, il reste toujours les accusateurs là. Elle se sent toujours coupable, la pauvre. Elle se sent coupable. Le sentiment de culpabilité. Ça, c'est pas facile. Oui, on peut avoir une vocation particulière pour aujourd'hui, hein. C'est pas une vocation d'être pompier, prêtre ou infirmière, mais une vocation particulière. Mais en fait, c'est pas facile. Parce qu'on a toujours le regret d'avoir des défauts, le sentiment de sa faiblesse, d'être moins bien que les autres, et on se sent paralysé parce qu'on se dit « Mais Seigneur, moi je fais ça, mais regarde, les autres sont tellement pleins de sainteté, de perfection, je n'y arrive pas. » Et donc, elle n'est pas libérée de la culpabilité ou du sentiment d'infériorité. Alors Jésus se relève et il va, en gros, dégager les accusateurs. C'est ça qu'il fait. Et il va montrer à la femme qu'elle n'a pas de complexe à avoir, autrement dit. Que d'abord, personne n'est parfait, que l'Église n'est pas parfaite, ceux qui prêchent comme moi sont très loin d'être parfaits, et vous le savez, et je suis très heureux de montrer, je dirais, mes imperfections, parce que ça vous met à l'aise, et donc ils n'ont pas à nous juger, tout simplement. Et donc, envoie balader le regard jugeur des autres, envoie balader les professeurs de morale, envoie balader les pasteurs, les prêtres, les évêques, les machins, les présidents, de tout ce que tu veux, qui vous disent que vous ne vous comportez pas comme il faut. Gérez votre vie dans votre relation personnelle avec votre Dieu. Le seul qui pourrait nous condamner, c'est le Christ, mais lui dit, je ne te condamne pas. Alors écoutez, bon, ayez l'esprit libre du jugement des autres pour pouvoir faire ce que vous pouvez pour Dieu. Alors il se rebaisse, il revient dans cette proximité avec la femme. Et là, il reste seul avec elle. Les autres ne sont plus un paramètre. Et voilà la question, fais, toi, ce que tu peux avec ton Dieu. Et il se remet à réécrire. C'est difficile de se remettre en marche, je vous l'ai dit, c'est pas simple. Il faut du temps, il faut rechercher le Dieu, le reperdre, le retrouver. Il vient vers nous, il s'éloigne, je reviens, il redécouvre, il m'écrit, j'entends et j'oublie, je relis. Et donc il faut sans arrêt réécouter cette parole, relire l'Évangile, le relire une fois de plus, reprier, reprier. Jamais une fois pour toutes, jamais, c'est toujours un chemin continuel d'avancer comme cela. Et finalement Jésus se relève et la relève avec lui. Alors le mot de relever, ça c'est bien connu par ceux qui fréquentent nos assemblées. Vous savez que le mot de relever est le mot qui est traduit par ailleurs dans la Bible par la résurrection. Et donc Jésus ressuscite et nous ressuscite avec lui, on pourrait dire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'Évangile à l'origine, enfin ce texte à l'origine, n'était pas là dans Jean, il était dans Luc, juste avant le récit de résurrection. C'est étonnant. C'est le récit de la résurrection de la femme. Donc comme Jésus ressuscite, il nous ressuscite avec lui. Donc voilà mes amis, frères et sœurs, nous sommes tous cette femme adultère, chaque fois que nous nous laissons aller à ne plus progresser, soit par sûreté de soi, se croire arrivé est toujours mauvais, soit par paresse, par faiblesse. Ça c'est l'un des 7 péchés capitaux, vous savez, l'acédie. La paresse spirituelle, voilà, c'est dangereux, mortel. Soit par découragement, j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est trop élevé, je ne suis pas capable, je suis mauvais, je ne serai jamais parfait. Dans tous les cas, c'est dangereux. La réponse du Christ, là-dedans, c'est qu'il nous relève avec lui. D'abord, il va s'intéresser à chacun de nous, individuellement, quel que soit le péché. Finalement, je m'en fiche un peu. Mais Dieu s'intéresse à chacun de nous et il commence par nous parler avant de nous juger de quoi que ce soit. Ensuite, il va nous donner à chacun de nous une vocation propre, une loi particulière à notre mesure. Et après, il nous libère de la culpabilité, du sentiment de culpabilité, du regard des autres, du jugement que pourrait être celui de Dieu, d'une loi religieuse, d'une église ou de quoi que ce soit. Il nous libère de tout cela et il nous remet debout. Mais cela dit, Dieu n'est pas pour autant d'une permissivité totale. Dieu n'a pas d'indifférence par rapport au péché. Il dit quand même à la femme, va et ne pêche plus. Eh oui, quand même, attendez, c'est pas un sauf-conduit pour faire n'importe quoi, la foi. Ne pêche plus. Mais si tu retombes, Jésus sera de nouveau là pour lui parler, pour lui réécrire, pour se relever, chasser la culpabilité, se rebaisser, de nouveau réécrire et se relever avec elle. Et donc voilà, accepter son imperfection et se remettre en route vers l'union avec le Christ. Et nous n'avons pas à avoir peur, parce que même dans cette marche difficile qu'est la nôtre, je ne le conteste pas, comme le dit le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu, en effet, certes nous relève, mais il continue de marcher avec nous. Il nous libère de toute culpabilité, oui, il s'abaisse jusqu'à nous, il nous considère, nous prend par la main. Chaque fois que nous sommes à terre, il nous relève avec lui, mais c'est pour ensuite marcher avec nous, joyeusement sur le chemin qui s'ouvre devant nous, parce que nous ne sommes jamais seuls, et ce sont les derniers mots de l'évangile de Matthieu, et où le Christ dit aux disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et nous en rendons grâce. Amen.